Chapitre 3. Je vins chez lui vers 8 heures. Il m'entraîna dans sa cuisine, où trottaient des parfums de choses rares sous nos climats, car il préparait des zakouski, entre autres des tartines de caviar qu'il aimait beaucoup. Cuisine petite et proprette, dont il utilisait fort peu les ressources, sauf quand Odiane venait passer quelques jours. Alors il refusait qu'elle s'y salît les mains. Tout y était automatique, conçu pour donner entière liberté de vivre et d'offrir tout autre chose que les contraintes du terre-à-terre. Comme Odiane aimait les originalités, les inventions farfelues, parfois un sandwich à l'indienne, Adrien était parfaitement équipé. Quand il eut achevé ses préparations savantes auxquelles il me fut interdit de participer, il m'invita pour l'apéritif. Je m'assis dans un fauteuil qu'il m'avait avancé, et pendant que je l'écoutais jouer un peu de musique, je regardais le lit récamier où Odiane venait s'étendre pour se reposer, lire, converser. J'imaginais cette femme, pour moi étrange, dans une longue robe du soir, la tête appuyée sur un étroit et haut coussin de soie, chevelure dénouée, regard attentif, prête à la critique autant qu'à des compliments. Je me faisais cette idée au souvenir que j'avais gardé de son visage et de son expression générale. Je ne l'imaginais guère encline à la tolérance, encore moins à des complicités. Adrien était venu tard à la musique parce qu'il y avait vu une distraction de solitaire, et je dois reconnaître qu'il y avait un don marqué pour cela aussi. Pendant qu'il jouait, j'eus l'indiscrétion de lire, qui dépassait d'un livre déposé sur la table basse, une feuille écrite à l'encre de Chine, et j'en fus très surpris. L'eau du ciel fertilise la terre, la rafraîchit et l'imprègne de son ruissellement infini. Mono souveraine, Héraclite prétendait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Mais moi, je me retremperai 77 fois à la source, sans que l'univers s'altère un seul instant et se désharmonise notre amour. Avec toi, je prétends arrêter le temps et le cours des astres, pour que jamais ils ne nous servent de miroir, miroir d'un monde magique où l'amour nous rendrait immortels. Quand Adrien cessa de jouer et rangea ses livres de musique, il revint vers moi sans interrompre ma lecture répétée de ses lignes. En levant mon regard vers lui, je lui manifestai la surprise que j'avais éprouvée, mais il n'en parut ni étonné ni fâché. « C'est vous qui... »« Diable, non !» me répondit-il. « Oh, je suis tout à fait incapable de moduler ainsi les vibrations du cœur. » Un jour, Odiane m'avait envoyé ce poème noyé au milieu d'une de ses lettres, si peu nombreuses. Vous le voyez, il arrive comme une vague inattendue qui s'abat sur la page. Avec ça, un étrange coup de plume, une aspiration d'un moment occupé par l'espoir ou la vie débordante. Oh, cela correspond tout entier à la personne. Elle vit dans l'instant et ne se rappelle de rien, ses paroles presque aussitôt que dites. Elle promet autant qu'elle tient peu. Si elle me téléphone pour me dire qu'elle arrive demain, je prends note, mais sans savoir si elle arrivera ce soir ou dans 2 mois. Enfin, vous avez lu et cela vous fait entrer dans mon labyrinthe. On attaqua les friandises en parlant d'autre chose et l'on s'installa auprès d'un feu pétillant dont il m'avait confié l'entretien. Notre repas, je m'en souviens, fut d'une gaieté affranchie de toutes les manières. Après ce partage sympathique et animé d'un menu tout simple, il m'invita à repousser la table, à installer un guéridon pour notre café et notre cigare. Décidé à vider cet abcès de silence qui m'avait tenaillé pendant un temps et auquel je n'avais plus pensé durant plusieurs mois, voulant enfin comprendre ce que j'avais pris pour des mystères autour de sa personne et d'Odiane, je le pris de front. « Adrien, en vérité, je connais peu votre personnalité et votre vie. J'ose ce soir de si franche conversation vous demander qui est cette femme si belle et si surprenante pour moi. Je l'avais vue chez vous l'an dernier, à la même époque, et je dois vous dire que la vision que j'ai eue d'elle m'avait beaucoup troublé. Jusqu'alors, je vous avais cru comme moi, célibataire. Oh, je suis très indiscret. Oh, tant pis si vous me renvoyez au calende. Je n'aurai à n'en prendre qu'à moi si vous refusez de me dire ce que vous pensez des femmes et ce qu'une femme comme celle dont je parle peut représenter dans votre existence. Adrien hésita quelques minutes sans manifester une seule ombre de reproche. Votre question pose un problème difficile à résoudre des femmes. Une femme. Vous me donnez à construire toute une dissertation et je ne sais comment me lancer. Bref, je devrais plaider. Oh, ne vous croyez pas obligé. En ce qui me regarde, vous savez que je suis un célibataire endurci. Certes, oh, j'ai eu des liaisons, mais elles furent plus littératrices que sentimentales, par manque d'avoir rencontré l'âme sœur, comme on dit. J'ai vécu parmi une nombreuse famille, 4 frères et 3 sœurs, tous en excellente santé aujourd'hui encore. Ma mère était tendre pour ceux d'entre nous qu'elle préférait. Mon père était militaire, dans le civil et dans le privé. Il a fini colonel, mais chez nous, il avait plus d'étoiles que de ficelles. Il voyait les femmes et ma mère comme des jouets délicieux avec lesquels on s'amuse un temps et que l'on range dans le tiroir des souvenirs croustillants. Ma mère n'avait aucune illusion. Même quand elle était présente, il parlait de ses multiples aventures dont il se laissait que peu de détails dans l'ombre. Ai-je subi son influence? J'ai tendance à voir aussi les femmes de cette manière, à l'opposé de la vôtre, semble-t-il, et pour le pluriel et pour le singulier. Pendant que j'avais parlé, Adrien avait rejeté la tête sur le dossier de son fauteuil et faisait des ronds de fumée. Il avait croisé les jambes et balancé l'une par intermittence. Son silence dura. Je n'aimais pas ces minutes lourdes qui revenaient régulièrement lorsque je lui posais des questions, le forçant à s'exprimer. J'aurais alors pu croire qu'il ne trouvait aucune raison de me répondre et à la limite qu'il n'avait pas écouté. Il avait la réflexion lente, prolongée, qui gênait l'interlocuteur. C'était lors de nos échanges d'appréciations artistiques qu'il avait toujours ce comportement. Je le voyais tendu par sa recherche intérieure, au milieu d'idées compactes, de visions désarticulées qu'il cherchait à rebâtir. Il ne traduisait rien sur son visage, mais je le sentais qu'il circulait comme dans les rues tortueuses d'une ville ancienne. « Votre question m'effraie, reprit-il, parce qu'elle m'oblige à regarder des horizons si flous et à éclairer des impulsions ou des reculs si obscurs que j'ai bien peur de vous décevoir, non par la médiocrité de mes sentiments, car aucun sentiment ne peut être ainsi qualifié, mais par la manière de m'y prendre. » Dans le fond, vous n'avez pas eu tort de m'interroger en partant de la pluralité avec l'article défini, car le mot « femme » n'a guère de sens lorsqu'il est précédé. La femme. Des connotations, oui, mais aucun sens. Forme et animalité y compris. Pour moi, ce n'est pas arbitraire. Vous voyez, je commence à vous décevoir. Non, mais je trouve que vous exagérez ou que vous aimez le paradoxe. Car l'animalité, si vous voulez, et la forme de la femme ont une valeur qu'on ne peut rejeter. La preuve en est qu'elles ont nourri un immense volet de l'histoire. Le corps féminin a fourni sa sève à tous les arts. Tous les plus grands politiques l'ont été pour des femmes par l'intermédiaire de la montre et de l'argent. De la proto-histoire au monokini, sans parler du zéro-kini, Le physique de la femme est la panacée de toutes les inspirations et de toutes les guerres. Et il me semble impensable de passer sous silence ou de déclarer la non-signification de tout son aspect charnel. Mais je vous le redis nettement, aucun sens. La femme, la plus belle soit-elle, avec la plus superbe animalité, peut ne pas provoquer l'intérêt, comme j'essaie de vous dire que je l'entends. D'accord, on ressent du désir, on rêve de satisfaire une idée préconçue, de la sensation, ou renouveler une expérience fort agréable, dont je ne disconviens pas. On se fait une idée de ce que serait la possession charnelle, je dis bien une idée, vu la statistique des déceptions. Rien n'assure a priori que ce désir peut s'assouvir, et à supposer qu'il le réussisse, ce serait encore pire. La satisfaction du rêve amoureux est devenue pour moi l'anti-amour, d'où les infidélités de toutes sortes et le donjuanisme permanent. Mais enfin, non, laissez-moi continuer. Car figurez-vous que j'en sais quelque chose par mon métier d'avocat. Oui, les femmes adorent Don Juan. Elles sont toutes elles aussi un Don Juan qui s'ignore. On se connaît, on est entre soi. Donc Elvire est une exception qui confirme la règle, à laquelle je ne crois pas, soit dit en passant. J'ai toujours détesté ces hommes qui prétendent aimer la femme parce que dans la réalité de leur vie, ils l'utilisent comme un instrument qui soulage ou pour grimper à l'échelle sociale. Très souvent. Et ils prennent, pour peu qu'elle se laisse prendre, la plus jolie. Pour être plus cocu, car les cornes, ça rapporte de haute place, des présidents, des ministères, beaucoup d'argent, outre celui qu'on avait déjà et qui a séduit. Et la femme, avec un grand F, je la rejette cordialement lorsqu'elle se prête à ce jeu qui la fait compliquée, vaine, prétentieuse, et pour finir très malheureuse. Je ne fais pas entrer en compte la femme génitrix et popote avec ses éternels tricots. Oh, vous êtes méchant, moins que vous. Moi, je suis lucide et pour cause. Vous allez me dire ça quand vous avez de la femme une pliètre idée héritée. Vous l'avez reconnue tout à l'heure de votre père. Vous avez rencontré la femme, oui, mais pas une femme. Si, enfin, je crois que si. Alors, vous n'avez fait que la rencontrer dans l'acception trop usitée du terme. Vous l'avez rencontrée sans l'avoir attendue, longuement, calmement, innocemment. Si vous cherchez une femme, vous ne la trouverez pas. Une femme, non, la femme, ne se trouve pas. Elle se présente à vous, presque en disant « me voilà ». Une femme, oui, parce que l'article indéfini est aussi le chiffre premier, une totalité. Oui, mais limitée, une erreur. C'est la femme qui est limitée. Limitée à son caractère ondulant, multiple, possessif, couvert, terne, ennuyeuse et dirigée vers le confort de ses seuls petits. Elle a besoin du mâle pour penser au reste. D'ailleurs, quand elle a eu de la fécondation autant qu'il lui en suffisait, elle rejette l'homme. Et comme il n'est plus rien pour elle, elle lui enlève sa culotte pour la porter. Peuple et bourgeoisie, sommes tout un. Et c'est là que nous trouvons la femme limitée, selon votre mot de tout à l'heure. Elle est féministe par réaction et par mépris de l'homme qui se laisse marcher dessus. Acariâtre par égocentrisme, raisonneuse par despotisme, et pour couronner le tout, perverse par déception. C'est alors la femme des hebdomadaires ou des mensuels, la femme de ces statistiques qui ont la vie dure. Vous vous échauffez, mais non pas. Mais vous me demandez mon sentiment, je le dis. Allez, un petit cognac. Très volontiers. Pendant qu'il préparait les verres et choisissait une vieille cuvée, je pensais que le raisonnement d'Adrien n'était pas convaincant, qui jouait trop sur les mots et fignolait jusqu'à l'article. Bon, lui dis-je, admettons. Bon, mais je ne vous oblige en rien. Surtout n'allez pas croire que je cherche à vous faire penser comme moi. D'ailleurs, je n'ai pas toujours pensé de cette façon. Et il est fort possible que je change d'avis, soit parce que vous m'aurez fait penser que je me trompe, soit par quelque autre circonstance. J'exprime gratuitement ce que je pense, sans faire ni un cours ni un plaidoyer. Très bien, je vous écoute. Quand je dis une femme, j'implique vraiment l'amour au sens propre et pur, dans sa simplicité, sa seule richesse, splendeur de la simplicité. Un homme ne peut aimer qu'une seule femme, et une seule, à travers une seule, non à travers toutes, comme l'expliquait un grand analyste suisse. À condition que ce soit dans un partage total et une plénitude. Oh, pas de l'amour aveugle, pas de coup de foudre, non, mais l'amour, inclination, selon le terme des précieux, celui que j'appellerais une nécessité fatale. Seul avec une femme est possible ce que j'appelle la pulsation, pas avec la femme. Mais la femme en général ou au pluriel rend impossible cette forme de vie. Or, il faut la pulsation. On peut prendre en exemple le cercle symbolique blanc et noir, bien connu du zen et des kabbalistes tournant sur lui-même. Il aboutit à un mélange des teintes créatrices. Image étrange, née des intuitions archaïques, disons des archétypes. Voilà la différence que je fais en une femme et la femme. Ah, bonjour la beauté, alors dans cette considération. Si, bien sûr, la beauté a son rôle chez une femme, mais aussi chez un homme. Elle ne fait pas l'essentiel. Disons qu'elle donne à la fatale nécessité son couronnement et je ne sais quoi qui la rend très supérieure à l'amitié, rempart des grands narcissiques, car si l'amitié a des splendeurs et des fidélités indéniables, il lui manque le ça, le vrai. Oh, pas celui de tonton Freud, ce serait qui fait le don suprême une aussi naturelle création qui peut être l'enfant. Mais ce ça que je reprends cette occasion n'est pas le seul accouplement. C'est une jouissance d'un autre ordre, un orgasme sentiment. J'étais submergé. Adrien s'arrêta. Et pendant quelques instants, nous avions dégusté son cognac. Il mit un disque, une pièce d'orgue de César Franck, si mes souvenirs sont bons. Mon hôte avait plus argumenté que donné un tour authentique à ses paroles. Mais cela me semblait assez confus. Il y avait là de l'intellectuel et de l'esthète, mais la chair n'avait pas dit son mot. Je venais d'entendre une position, le résultat d'une réflexion de philosophe, non une véritable expérience. Oh, pour moi, le plus intéressant, enfin je veux dire le mystère d'Odiane, résidait dans l'expression directe de la vie d'Adrien avec elle, et peut-être avant elle. Mais je n'osais toujours pas commettre l'indiscrétion. J'aurais voulu que lui-même se laissât aller à cette confidence, et je sentais qu'il contournait la question, se donnait du délai. Dans ces conditions, lui dis-je, j'aperçois en vous un certain recul devant la femme. Elle vous fait une peur inavouée. Vous rejetez ou vous essayez de rejeter la pluralité pour éviter de rencontrer dans les femmes un nombre d'aspects si grand qu'ils vous égareraient. Excusez-moi, ai-je tort en parlant de peur? Appréhension serait probablement préférable. Je ne sais pas. Effectivement, dans ce que vous dites, il y a du vrai et du faux, évidemment. En tout cas, mon enfance explique en partie cette attitude contre laquelle actuellement je ne puis lutter ni ne le désire. Si c'est de l'appréhension, je trouve une sorte de charme à en éprouver à l'égard des femmes. À chacun sa jouissance. Je n'ai pas reçu en héritage l'esprit du conquérant, et j'en suis heureux. Les femmes conquises aiment rarement. Elles admirent l'envahisseur et finissent très vite par le subir. Leur liberté a été aliénée, comme pour Agnès ou Evelyne. Mais pourtant, lui répliquai-je vivement, il est archiconnu que les femmes aiment être conquises, sinon enlevées. Dans une société, je me souviens d'avoir entendu une épouse dire devant son mari « Quand je pense que ça fait 15 ans que nous vivons ensemble, et il n'a jamais trouvé l'occasion de me violer. Vous pensez bien que j'ai apprécié ?» Boutade ou provocation à peu de frais, elle avait lu ça dans un roman. Dans la réalité, il faut plus de nuances. Lorsque la femme aime, c'est elle qui part à la conquête. J'anticipe en croyant que vous allez crier au paradoxe, encore une fois. Oui, elle part à la conquête par sa séduction même, ses formes, ses mines, sa démarche étudiée, sa voix, par son art du silence ou de l'apparente indifférence. Seule une femme ouvre les hostilités, si je puis dire. Une cour assidue à une femme ne prouve pas du tout que vous cherchiez à la conquérir, mais au contraire, montre que vous êtes conquis, prisonnier, corps et biens. Qui enlève une femme a déjà été enlevé par elle, consciemment ou non. Elle ne méprise pas l'homme qu'elle a séduit, mais elle est d'autant plus charmée dans ses fibres secrètes lorsque son amant l'entoure d'avoir été par elle subjugué. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait attendre une femme. Si on la cherche, on ne la trouvera pas. Je ne veux pas vous convaincre, mais vous offrir quelques observations sans originalité. Non, toute cette tirade me plaît, lui dis-je. Mais elle n'explique pas vraiment votre appréhension devant là où les femmes. Je reste très réservé, ne vous en déplaise. Je suis d'accord avec vous. Chacun a ses propres sensations. Je redis que mon appréhension résulte sûrement de mon éducation. Fils unique, j'ai été mis en condition par ma mère. C'était presque inévitable. Elle redoutait de me perdre, surtout à cause des femmes. Elle me montrait dans tout féminin une sorte d'incarnation du diable, au moins une personnification de la perversité. Souvent, elle répétait devant moi que la femme était enfant malade et 13 fois impure, que la femme était rouée à cause du sentiment de sa faiblesse, comme la bête traquée qui croise ses traces pour égarer les chiens, base qu'on lève et qui voudra son chasseur en défaut. Catholique ? Mais le catholicisme, très fin de siècle. Elle croyait que par définition, la femme ne pouvait pas être épanouie, probablement parce qu'elle-même avait été étouffée, entraînée au principe de la soumission au mari. Alors les filles représentées pour moi non pas des diables, soyons sérieux, mais de dangereux animaux qui trompent sans cesse et ne vivent que dans le mensonge. Que leur faiblesse rende 100 fois plus forte que les garçons. Ce qui est vrai, soit encore dit en passant. Si bien qu'avant l'âge de la faculté, je souffrais beaucoup des moqueries des filles. Et il a fallu justement que j'entre en faculté et que je rencontre la mixité pour que je sois à peu près guéri de ces refoulements. Des filles ne riaient plus de moi. Je participais à certaines de leurs distractions. Elle me trouvait agréable. Je louais des relations fort sympathiques. Je vis dans ma mère une femme jalouse qui avait commis une faute contre moi, et je me détachais résolument d'elle. En partie, non, totalement. Du moins en ai-je la conviction. Mais le substrat de ces attitudes anciennes ne peut disparaître, vous le savez. Et les tourments d'autrefois peuvent toujours, et chez chacun, se sublimer, soit en création poétique, soit en départ définitif. qu'il commence pas par faire des vers quand il a 18 ans. Inutile de vous dire que ma virginité était intacte. Je savais ce que, pour l'époque, enfin, il fallait savoir, sans plus. Je conversais beaucoup avec les étudiantes, mais en me cantonnant dans les sciences, les lettres, les projets d'activité future. Quand l'une ou l'autre se montrait tendre et me faisait des yeux brillants, oh, je me défiais avec des palpitations violentes, et les garçons qui en embrassaient quelques-unes dans les couloirs de la Sorbonne provoquaient en moi des rêves ou des envies démesurées. Normal. Mais avec ce que je sais à cette heure sur la vie nouvelle des jeunes, il est vrai que c'était naturel. Normal, comme vous dites. C'est donc dans ces conditions que je passais ma licence, mon diplôme et préparais mon doctorat. Avec le même patron, une jeune fille le préparait sur un sujet voisin dont je vous ferai grâce. Nous nous rencontrâmes régulièrement à la faculté, dans la rue de Médicis où elle habitait, au Maheux, un café qui dans ce temps-là faisait l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot, et nous avions cru trouver en nous des traits communs. J'avais des goûts très classiques, elle beaucoup plus fantaisiste, qui cadrait peu avec l'austérité du droit, mais qui m'amusait. Elle voyait en moi un travailleur consciencieux et la sécurité. Je voyais en elle une éducation sexuelle, une femme dans mon lit et à mon domicile. Pratique et rassurant, même si on ne le dit pas, la vie est partagée. C'est vrai, enfin, on s'amuse à le dire. Cette année de mon doctorat en droit, mon père et ma mère se tuèrent dans un accident de voiture. L'épreuve fut rude, mais je me suis trouvé dans une situation toute nouvelle, celle de vouloir seul. Je devais prendre mes responsabilités, agir. Sauf le respect que je devais à mes parents, par principe, leur mort me donna du courage. Je me sentis détaché d'eux sans culpabilisation. Or, un après-midi d'avril, je venais de discuter longtemps avec Claude, c'est ainsi qu'elle se prénommait, près de la fontaine de Polyphème au jardin du Luxembourg. Je décidais brutalement de mon destin et de mon avenir. Mon cœur tourbillonnait à me rendre malade. Je ne sais plus sur quel ton ni avec quelles intonations, mais avec un nœud dans la gorge, je lui dis « Claude !» Je n'ai pas eu le temps de finir que vite elle me répondit « Moi aussi, Adrien !» Et dans la même obscurité de l'âme, nous échangeâmes un baiser sur nos bouches avec un manque de pratique à exploiter au cinéma. Nous tremblions dans le vent comme les feuilles toutes nouvelles des marronniers. Vous voyez, ma vie a son minimum garni de platitudes. Lui, dont le visage exprimait d'habitude les tourments de l'âme, semblait dans ce moment, avec moi, esquisser un sourire presque tendre à l'adresse d'un personnage qu'il avait trop vite joué ou trop bien. C'était pour vous une manière de vous rassurer, lui dis-je, de vous prouver que vous étiez comme un autre, capable de tenir dans vos bras un corps de femme et de déposer un baiser sur des lèvres. Vu de si loin, la chose doit vous amuser aujourd'hui. Oui, avec le recul du temps, oui, c'est exact. C'était une victoire sur mon propre passé, une remise à zéro contre l'idée maternelle que les femmes étaient des incarnations de Satan. Car Claude ne m'avait en rien provoqué. C'était moi et moi seul qui avait commencé. Je n'avais pas dit à Claude que je l'aimais, mais mon bafouillage dans la prononciation de son prénom avait dû l'avertir de ce qui a suivi. Victoire maladroite sur ma mère et sur mon enfance ratée. Dommage, que de temps sacrifié pour rien. Et puis les mois passèrent. Tous deux avions réussi le doctorat et nous étions en apparence heureux. Je dis en apparence parce que le plus heureux c'était elle, car moi j'étais beaucoup plus inquiet dans mon fort intérieur. Je ne vous cache pas que je suis un homme inquiet par nature, et je le suis au moment même où je vous parle à vous, qui voulez tout savoir de moi. Mais non, je vous assure. Mais si, mais si. Vous avez les yeux tout allumés parce que vous voulez savoir qui est Odiane. Alors, soyez sincère. Patience. Enfin, je poursuis. Oui, je suis inquiet de tout le monde en général, des hommes, des étoiles, des arbres, des fleuves, d'Odiane dont je viens de quitter la voix et l'extraordinaire présence. Mais pour en revenir à ce temps dont je parlais à l'instant, Claude et moi décidâmes de nous marier. Deux puceaux qui font l'amour pour la première fois, c'est maladroit et parfaitement grotesque. Deux docteurs en droit, nus dans le noir, oh, je vous laisse imaginer le tableau. C'est bouffon vraiment, et qui hésite encore à se tutoyer pour comble de comique. Et Adrien partit d'un grand éclat de rire. C'était ainsi que je l'appréciais le plus. Toute sa personne se donnait. Il m'apparut de la sécurité dans ce rire, du calme, un agréable repos. Cognac. Le mariage, ça vous a scié, reprit-il. Plus de tracas, on ne pense plus. La soupape de sûreté fonctionne. On fait plein de péchés avec la garantie des lois et de l'opinion. Célibataire, vous êtes suspect. Ce n'est pas de vous que je parle, non, 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 mais aux yeux de beaucoup, vous semblez incapable d'aimer, égoïste et d'être aimé. Que ne croit-on pas non plus? Alors le mariage m'avait installé confortablement. J'avais des chaussures, des chaussons, la table, de l'argent, des mouchoirs propres, des chemises repassées, des attentions minuscules, des visites à faire et à rendre. Claude me pouponnait et la maison était si bien tenue qu'au bout d'un an, je me vis souhaiter un minimum de grâce pour établir l'équilibre et donner de l'inattendu à ma vie. Alors il y eut des premiers accrochages. Une table déplacée, une horloge déréglée, du pain trempé dans une soupe, la mettait hors d'elle. Si j'acceptais de n'être pas payé pour telle consultation ou si je manquais volontairement une affaire, c'était des discussions à n'en plus finir. Il faut à l'homme, à la femme aussi, un brin de négligence pour donner des occasions vitales de se battre, de réfléchir, enfin d'orienter et de modifier ici un cadre d'existence, là une position sociale ou encore un idéal. Je ne faisais pas de cette insécurité, de ce désir de changement, une réponse à une tendance profonde de moi-même, mais on aurait cru que je trouvais un malin plaisir à chercher des fantaisies pour me constituer des occasions de l'agacer ou de m'en plaindre. De me plaindre à moi, bien entendu, puisque me plaindre à Claude était exclu. Elle m'aurait dit: Tu verras, mon chéri, avec le temps, tout pourra s'arranger, et puis je ferai tout ce que tu voudras. Ensuite, elle se serait retournée pour ronfler tranquille et sereine, avec le sentiment d'un devoir accompli. Vous connaissez ces sortes de pensées éminemment creuses avec lesquelles les gens trouvent l'art imbécile d'éluder les vrais problèmes et d'en créer d'autres plus faux, qu'ils savent faux, mais ne veulent pas résoudre. Parce que si le moyen s'en présentait, ils se trouveraient face à eux-mêmes. Mais c'est pourtant un peu ce que vous faisiez. Oui, mais je désirais que Claude s'en aperçoive. Si par exemple elle avait lutté contre moi, au moins j'aurais eu des raisons de m'intéresser à elle. Mon Dieu, protégez-moi de ceux qui m'aiment, vous savez la formule. Mais enfoncer les portes sans cesse ouvertes devient épuisant. Vous n'avez sûrement pas rencontré ces personnes qui vous servent de gloire, de lumineuses auréoles. Elles ne savent jamais quoi faire assez pour vous nimber, ni ne laisser sans éclat aucun recoin de ce que vous êtes. Nous aimerions qu'une bonne fois, elle nous trouve une face dépourvue de sainteté, sinon de perfection. Cela se voit dans bon nombre de couples. J'aurais presque souhaité être original dans ma souffrance cachée. Idiote, Claude m'aurait offert une chance insolente. Avoir épousé une imbécile m'aurait permis d'avoir pitié de moi et d'en tirer définitivement les conséquences. Vous me surprenez par cette solitude intérieure qui semble exister chez vous en permanence comme un confortable refuge. On dirait que vous la cherchez, que vous la cultivez, que vous éprouvez aussi une sorte de justification de vous-même quand vous en parlez. Le narcissisme revêt toutes les formes, mais il me semble savoir que vous avez eu un enfant avec Claude. N'avez-vous pas une grande fille qui fait des études de médecine? Je crois que vous m'en avez dit un mot, je ne sais plus quand. Il est vrai, oui, la pauvreté garde sa noblesse, mais la misère est un vice. On a répété ça X fois. Parce que mon âme était dans la misère, noire, affreuse, laide. Je me suis dit qu'avec un enfant, le fond de mon esprit trouverait à la rigueur une issue, une solution, pour pouvoir échanger un peu de ma personne sans arrière-pensée. C'est riche, un enfant. Mais la préparation de la naissance fut aussi une nouvelle occasion de souffrir. Avec sa layette, Claude enceinte me parut encore plus ennuyeuse, plus méprisable et ridicule. D'avance, je me mis à ne plus aimer cet enfant. Il a fallu que Diane me donne un fils pour que j'aime l'enfance. Mais ce fut bien plus tard. Pourquoi telle femme enceinte est-elle cause du malaise de celui qui l'a engrossée? Mais pourquoi une autre le remplit-elle de joie? Adrien, vous le savez fort bien. Oh, c'est pas si simple. Je crois qu'aux yeux d'un homme, la femme qui s'intéresse trop à sa grossesse ou qui trouve son accomplissement dans la maternité perd presque toute son importance et provoque la catastrophe de rendre le père foncièrement jaloux. Et j'ajoute qu'être jaloux de son propre enfant, pas encore né, est infiniment plus grave qu'une jalousie causée par un amant. En ce qui concerne la jalousie contre un amant, la seule vanité est blessée, mais au sujet d'un enfant à naître, c'est tout un ensemble sentimental, un inextricable tissu de composantes qui se déchire. Bien, Claude mourut en couche. Peu importe ici les causes qui me donnèrent bien du tracas. Elle m'a laissé cette fille que, tout compte fait, j'ai beaucoup aimée à cause de sa faiblesse d'être orpheline, mais aussi charmante et facile à élever. J'ai eu le courage de dire que la mort de sa mère a grandement fait pour que je m'attache à ma fille Claire, mais ce fut bien plus par sentiment du devoir que par sincérité exempte de troubles. Venez, je vais vous montrer des livres rares. Il y en a bon nombre qui appartiennent à Odiane, qu'elle a acheté ou reçu de moi et dont elle me laisse la garde. Lorsque je viens dans ce salon où elle aime se retirer, je retrouve sa beauté remplie de nonchalance sur le canapé, toujours en train de lire et entourée de musique. Elle me dit parfois que je suis son poète en gros sabots, qui se fait attendre et qu'elle n'aime pas cette coquetterie. Je l'embrasse et nous échangeons des sourires complices. Oh, mais savez-vous qu'il est minuit passé? Si ne tenez qu'à moi, j'aimerais vous garder jusqu'à l'aube, mais comme vous partez en voyage demain, je vous avertis que vous devez être raisonnable. Adrien, vous rappelez-vous que si l'un de nous semble déraisonnable? Adrien sourit sans rien me répondre. Je pris une édition de Superviel dans laquelle je découvris une photographie d'Odiane vue de profil. Elle avait peut-être 20 ans. Au revers de la photo, je lus encore une fois l'écriture rapide et dominatrice. Comme l'aurore habite nos pensées, comme est cher le jour qui nous attend. Ainsi, nous n'avions pas joué aux échecs comme il me l'avait proposé au moment où il m'invita. Cher ami, me dit Adrien à l'instant de nous quitter, votre visite m'a fait grand bien. Elle m'a permis de dire un peu de moi et de caresser mon égotisme, mon histoire toute plate et ennuyeuse qu'elle est. Mais ce soir-là, je ne vous parlerai pas de Diane, car je n'en éprouve pas le besoin. Et puis cette nouvelle séparation que je viens de vivre crée en moi une très grande fatigue. Ce soir-là, j'ai oublié quelque peu mes blessures qui ressurgissent à certaines heures, comme le vent reprend sa vigueur, sans qu'on sache comment ni pourquoi. Je sais que Diane me reviendra. Dans un mois ou deux, une semaine, un an, je ne puis jamais le prévoir. Elle est tellement fantasque. Elle veut revenir toute seule, sans que je cherche à savoir, d'elle-même, comme ça, avec son caprice, que j'aime et que j'éprouve assez. Et puis, je vais essayer de dormir.